Jacques Famdongo, bonjour.
Bonjour.
Au mois de mars dernier, le secrétaire général de l'ONU a appelé un cessez-le-feu dans l'Ouest anglophone. L'un des mouvements rebelles a accepté, mais pas le gouvernement. Pourquoi ?
Oui, mais comme vous le savez, il y a eu un grand dialogue national en 2019 et nous avons pu aboutir à un modus vivendi, à savoir la prise en compte de la plupart des revendications des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la reconstruction de ces régions, un statut spécial pour les deux régions, le renforcement du bilinguisme et du multiculturalisme. Alors maintenant, nous avons une horde de hors-la-loi qui sème la terreur, qui égorge, qui viole, qui enterre même des personnes vivantes. Il est assez difficile, n'est-ce pas, de procéder à un cessez-le-feu avec des sanguinaires et des tortionnaires.
Alors vous parlez dehors la loi qui commettent de nombreux crimes, mais en février dernier, selon les Nations Unies, au moins 22 civils ont été massacrés par l'armée camerounaise à Ngarbou, dans l'Ouest anglophone. Comment expliquez-vous ce massacre ?
Vous le savez, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a prescrit une enquête approfondie. Cela signifie qu'il y a une présomption d'exaction.
Apparemment, ce sont des soldats qui sont visés par l'enquête, aucun officier. N'est-ce pas une enquête qui risque d'être bâclée ?
Non, je crois qu'il faut éviter des procès d'intention. Le président de la République est un légaliste et il ne peut pas laisser prospérer des actes ignobles. Je crois savoir que, comme il a dit, l'enquête sera exhaustive et sans complaisance. Et naturellement, si tant est que les allégations soient vérifiées et validées, naturellement, des sanctions exemplaires seront versées contre les contrevenants.
La mort en prison du journaliste anglophone Samuel Wazizi, est-ce que ce n'est pas une grave atteinte aux droits de l'homme ?
Mais vous le savez, le ministre en charge de la Défense a publié un communiqué. Le communiqué a relaté les tenants et les aboutissants de cette mort. Je crois savoir que les conséquences devraient être tirées en toute connaissance de cause.
Samuel Wazizi était journaliste dans le sud-ouest anglophone. Il a été arrêté en août 2019 et ce n'est qu'au début de ce mois de juin qu'on a appris sa mort. Pourquoi cette dissimulation pendant près d'un an ? Est-ce parce qu'il fallait cacher les circonstances réelles de sa mort ? Est-ce parce qu'il avait été torturé et qu'il ne fallait pas faire d'autopsie ?
Le communiqué a été clair. Pour le moment, je ne peux pas dire avec certitude qu'il y ait eu volonté de dissimuler tel ou tel acte ignominieux. Mais je crois savoir que, bien qu'il y ait eu le retard que vous signalez, il n'a pas été question, n'est-ce pas, de dissimuler la vérité ou de couvrir des actes ignobles.
Dans son communiqué, le ministère de la Défense dit que le journaliste a succombé à une septicémie, mais la famille n'y croit pas, les organisations des droits de l'homme non plus, alors ne faut-il pas une enquête ?
À ce niveau-là, naturellement, la personne habilitée à prescrire l'enquête fera le nécessaire en tant que de besoin, et tant est que le juge nécessaire.
Pour l'opposition et pour beaucoup de gens de l'opinion publique, le président Paul Biya est souvent absent. Pourquoi a-t-il attendu 2 mois après le début de l'épidémie pour s'exprimer en public ?
Le silence est un langage. D'ailleurs, le cardinal Robert Tara le dit très bien dans son ouvrage intitulé « La force du silence contre la dictature du bruit ». Le président ne veut pas cette dictature du bruit. Il ne veut pas parler pour parler. Le président parle par les actes et il agit effectivement. S'agissant du coronavirus, c'est lui qui préside la stratégie nationale de riposte contre le coronavirus et les résultats sont positifs. Puisque le taux de létalité, c'est-à-dire le taux de décès, est relativement bas, 2,64%.
2,64% par rapport au nombre de malades, c'est ça ?
Par rapport au nombre de cas.
Mais alors, pourquoi avoir fait interpeller les militants de l'opposition qui distribuaient des masques et du gel hydroalcoolique ? Est-ce que ce n'étaient pas des produits qui pouvaient être utiles à la population ?
L'article 3 de la Constitution dit que les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage, conformément à la loi. Il faut tout simplement se conformer à la loi. Je crois savoir que le ministre de l'administration territoriale a publié un communiqué là-dessus. Il expliquait comment cette ONG ou ce parti politique n'avait pas respecté les lois et règlements de la République. C'est la raison pour laquelle mon collègue de l'administration territoriale a jugé irrecevable ces dons. Et nul n'est au-dessus de la loi. La loi est dure, mais c'est la loi.
Mais en voulant criminaliser une action humanitaire, est-ce que le gouvernement ne risque pas de se mettre à dos l'opinion publique ?
Le gouvernement ne voudrait pas criminaliser un don ou alors un donateur. Celui qui se met hors la loi, naturellement, encourt le rejet de l'État.
Mais si c'est pour le bien ?
Oui, même si c'est pour le bien, il faut respecter les lois et les règlements de la République. C'est ça un État de droit.
Depuis le grand dialogue national d'octobre dernier, plusieurs réformes sont en cours, mais est-ce qu'il ne faut pas envisager aussi une révision de la Constitution ?
Pour le moment, ce n'est pas d'actualité.
Certains parlent de la création d'un poste de vice-président au Cameroun. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ce sont des rumeurs.
Oui, mais peut-être les rumeurs finissent par devenir réalité.
En ce qui me concerne, j'ai fait mes petites enquêtes. Pour le moment, il n'est pas question d'un projet de loi déposé par le gouvernement ou alors d'une proposition de loi émanant du Parlement. J'ai dit donc que pour le moment, cela n'est pas d'actualité.
Actuellement, c'est le président du Sénat qui est appelé à succéder au chef de l'État en cas de vacance du pouvoir. Mais est-ce que c'est la bonne solution ?
Oui, c'est la solution, puisque c'est cela qui est dans la Constitution. Et la Constitution, c'est la loi fondamentale, donc c'est la bonne solution.
Est-ce que, vu l'âge du capitaine, la question de la succession ne va pas se poser un jour ?
Mais vous dites bien un jour. Il y aura bien un jour où cette question va se poser. Mais alors, quel jour ? C'est une équation à plusieurs inconnus, puisque nous ne connaissons pas le jour.
Est-ce que vous y pensez ?
Je crois que dans toute démocratie, on ne peut pas exclure cela. Mais ce n'est pas d'actualité, puisque le président de la République exerce pleinement ses activités.
Est-ce que le chef d'État y pense ? Est-ce qu'il prépare sa succession ?
Le chef de l'État est un sage, c'est un homme équilibré, c'est un homme pondéré et c'est un homme qui aime passionnément le Cameroun.
Donc il y pense ?
Mais c'est vous qui le dites.
Est-ce qu'il vous en parle ?
Non.
Et du côté de l'opposition, Maurice Camteau parle d'un gré à gré, c'est-à-dire de l'hypothèse où le président Biya désignerait lui-même son successeur.
Cela est tout à fait faux, parce que la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais, souverain et maître de son destin. Donc lorsque la question de la succession sera d'actualité, pour le moment elle ne l'est pas, naturellement c'est le peuple camerounais souverain qui élira démocratiquement le successeur de l'actuel président de la République. Tout le reste relève des chimères, des supputations et des fantasmes. Donc les allégations relatives au gré à gré politique relèvent de la fantasmagorie.
Jacques Femme-Dongo, merci.